Ce colloque est donc intitulé « Dieu au Collège de France ». C'est un titre qui peut avoir l'air ambitieux. Le colloque prend la suite d'une série de colloques que nous avons institués depuis quelques années, avec un an de retard, puisqu'il devait avoir lieu en juin 2020 et que la situation sanitaire a retardé sa réalisation. Il prend donc la suite d'une série de colloques que nous avions organisés depuis 5 ans dans le cadre de cette recherche sur l'histoire des disciplines enseignées au Collège de France et à travers ce poste d'observation du Collège de France dans le haut enseignement français, parisien et international. Dans les colloques précédents de cette série, nous nous étions interrogés sur l'émergence d'un certain nombre de nouvelles disciplines, comment cet établissement avait réagi à leur apparition, comment il les avait intégrées ou écartées. Les colloques successifs avaient donc porté sur Freud au Collège de France, Darwin, Einstein et Durkheim. Et les modèles étaient très différents, puisque dans certains cas, comme celui d'Einstein, la nouvelle physique de la relativité restreinte puis générale avait été très vite introduite au Collège de France grâce à Paul Langevin, qui était lié à Einstein dès le début du XXe siècle. En revanche, dans le cas du darwinisme, le Collège de France n'avait pas été précurseur et le haut enseignement français, en général, avait résisté à la théorie de l'évolution de Darwin. Dans le cas de Durkheim, la sociologie a mis beaucoup de temps à trouver sa place dans cette institution, de même que l'anthropologie. Ces nouvelles sciences sociales ont dû s'y reprendre à plusieurs fois avant de trouver une place, hein, puisque c'est seulement Marcel Mauss, après plusieurs échecs, qui représentera la sociologie, et Durkheim ira pendant ce temps-là à la Sorbonne. Donc, vous voyez, le collège est un bon poste d'observation, au fond, parce que nous avons un tout petit nombre de chaires, une vingtaine depuis la fin du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution, passé peu à peu au cours du XIXe siècle à 40 à 50, chiffre qui est toujours le nôtre aujourd'hui. Et au fond, c'est un jeu à somme nulle. Quand on introduit une nouvelle matière, il faut en écarter une autre, ce qui ne rend pas facile les circonstances. Et c'est donc, au fond, beaucoup plus difficile que dans les universités et les organismes de recherche qui ont pu s'agrandir dans des proportions sans commune mesure avec ce qui a lieu ici. Alors, après ces 4 colloques, nous étions demandés, avec Céline Surprenant, qui doit être là, qui depuis le début de ses recherches sur passage des disciplines, a été vraiment l'instrument de ces travaux, nous étions demandés s'il fallait compléter avec Marx, puisque c'est un des grands discours introduits vers la même période. Bon, peut-être le ferons-nous dans une des prochaines années, parce que même si je crois qu'à aucun moment les théories de Marx n'ont véritablement été enseignées au collège, ce serait tout de même l'occasion de se demander les rapports du collège avec l'économie, avec l'économie libérale au XIXe siècle, qui a été très fortement représentée ici, et avec différents courants de l'économie au XXe siècle et au XXIe siècle. Je n'ai donc pas du tout renoncé à l'idée d'un Marx au Collège de France que je crois que nous ferons, qu'il faudrait faire. Mais Dieu. Alors évidemment, Dieu n'est pas une nouvelle discipline au XIXe siècle. Nous avions repris l'expression de Michel Foucault pour qualifier ces inventeurs de discursivité. C'est comme ça qu'il qualifiait Darwin, Freud, Nietzsche ou Marx, inventeurs non seulement de nouveaux discours, mais d'un nouveau continent discursif, d'une nouvelle épistémée, comme il disait. Et c'est pour ça que ces noms représentaient beaucoup plus qu'un auteur singulier. Alors Dieu, bien entendu, il est beaucoup plus ancien comme inventeur de discursivité. Il n'en reste pas moins qu'il me semble qu'on peut s'interroger d'une manière tout à fait conforme à ce que nous avons fait dans les colloques précédents sur la science de Dieu, sur la science des religions et sur la manière dont le collège, à différents moments de son histoire et à travers le collège, l'université, le haut enseignement en général, la vie des idées, a fait sa place à une science des religions. N'oublions pas que lors de la fondation du collège en 1530, bien entendu, tout le monde était chrétien. Et il était peu question de ne pas l'être. Il n'empêche qu'un souci philologique était déjà un souci scientifique. Autrement dit, peut-être peut-on penser que tout au long de l'histoire du Collège de France, il y a eu cette préoccupation d'aborder la question de Dieu d'un point de vue qui n'était pas seulement, ou peut-être parfois pas du tout, celui de la foi, mais qui pouvait être celui de la science avec les différentes étapes de la science. Alors, comme pour les colloques précédents, il y a une concentration assez forte sur la période moderne, sur ce qui s'est passé au XIXe siècle et au XXe siècle, où la science des religions prend véritablement un sens, mais il était aussi important de retourner dans le passé et de nous intéresser. Alors, ça demanderait évidemment beaucoup d'autres recherches, des recherches beaucoup plus longues, à ce qui s'était passé sous l'Ancien Régime, dans le Collège royal. Et puis, peut-être aussi de se demander comment le Collège avait accueilli d'autres religions que la religion du Royaume de France, aussi bien sous l'Ancien Régime que par la suite, d'où un certain nombre de communications que nous avons prévues sur la présence de protestants comme de la science du judaïsme dans le cadre du Collège de France. Malheureusement, nous avons peu de communications sur les catholiques eux-mêmes au Collège de France. On s'intéresse plus aujourd'hui aux minorités qu'aux majorités, et je regrette que finalement nous ayons eu peu de choses sur l'influence catholique au Collège dans ce programme. Puis j'ai pensé, en préparant ce que je dirai moi-même demain, où j'essaierai de faire quelques sondages sur des moments de cette influence catholique forte, j'ai pensé qu'il y avait aussi un point que nous avions négligé, qui était la franc-maçonnerie, la présence très forte de la franc-maçonnerie à certains moments de l'histoire du Collège de France, en particulier à la fin du XVIIIe siècle. Et peut-être que ça montre qu'il y aurait encore beaucoup d'autres choses à faire sur cette présence ou absence de Dieu au Collège de France. Je suis content que le colloque ait pu être retardé jusqu'au mois de juin, puisque nous avons le droit d'avoir un public, et donc un colloque physique et non seulement virtuel, alors que nous avons passé toute l'année derrière des écrans. Et ça a provoqué un certain nombre de petits changements de dernière minute dans le programme qui l'ont compliqué, mais en gros, il correspond à ce qui vous a été distribué. Alors, je voudrais juste signaler, puisqu'on m'a demandé de le faire, que dans le titre de Paul Petitier, qui parlera cet après-midi à 2h, il faut ajouter qu'il s'agit de Michelet. C'est de Michelet qu'elle nous parlera, ça a sauté dans le titre. Et puis, je crois que pour le moment, c'est tout ce que je voudrais dire pour introduire cette première journée. Il n'y aura pas de présentation des orateurs, puisqu'ils sont présentés dans le programme. Vous avez une notice biographique sur tous les orateurs, ce qui nous permet d'économiser un peu de temps afin de le consacrer aux discussions après les communications. Je crois que je n'oublie rien. Et non, c'est bon. Et donc, je donne tout de suite la parole à Thomas Remer, professeur au Collège de France, actuellement notre administrateur, pour parler des études bibliques au Collège de France, le cas de Jean Astruc, un médecin invente l'exégèse historico-critique, qui correspond exactement à la présentation que je faisais, l'introduction d'un point de vue scientifique.